La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens. Être SDF, c'est devenu honteux. Ce qui dérange la société, c'est que nous sommes ses victimes. En nous, elle voit ses mauvaises notes, ses erreurs accumulées, son égoïsme, ses poubelles qu'elle ne sait pas où vider. L'épreuve vivante de son échec. C'est de Lydia Péréal dans son livre autobiographique paru en 95, « J'ai 20 ans et je couche dehors ».
Libre Ensemble, Catherine Axe, Jacques Nizan.
Bonsoir à toutes et à toutes, merci de nous avoir rejoints dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Avec le retour de l'hiver, on entend à nouveau parler du plan Grand Froid par le portail de l'Action Sociale en Wallonie. On voit repointer cette politique du thermomètre qui donne le feu vert. Allez, il fait froid, on ouvre des places supplémentaires. On pense à tous ces gens qui dorment dehors. Les médias nous rappellent qu'il est bon de faire des dons via de grandes soirées de charité télévisées. Mais on oublie trop souvent que c'est toute l'année que des hommes et des femmes de terrain se battent contre la pauvreté. Chez nous, c'est toute l'année qu'il faut ambitionner la solidarité. Alors pour créer un espace commun où les individus se sentent liés les uns aux autres, où chacun aurait les moyens de son émancipation et de son autonomie, le mouvement laïque s'engage quotidiennement dans des activités de lutte contre cette exclusion sociale et cet appauvrissement, directement sur le terrain, dans la rue. Nous en parlons ce soir avec nos invités qui connaissent bien la question. Je suis ravie d'accueillir Stéphane Mancy. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir.
Vous êtes coordinateur du relais de la Louvière et le docteur Charlie Sibyl. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre au sein de l'équipe mobile 107 et précarité sur les 19 communes de Bruxelles. Alors, parmi les activités de lutte contre la pauvreté, il y a les abris de nuit ou de jour qui accueillent quotidiennement des sans-logis ou sans-papiers. Il y a donc le relais social urbain de la Louvière dont vous êtes le coordinateur, Stéphane Mancy. Ça désigne quoi le relais La Louvière? Un réseau composé d'opérateurs publics, privés, actifs dans l'aide aux populations. Concrètement, rappelez-nous sur le terrain, quelle est son action?
Alors concrètement, effectivement, nous avons en gestion avec Picardie Laïque l'abri de jour et l'abri de nuit, en partenariat avec le relais social urbain, qui nous donne un budget chaque année alloué par la région wallonne pour fonctionner toute l'année avec un supplément, un renforcement de moyens structurels et financiers au moment de la période du plan Grand Froid. Force est de constater que cette enveloppe est fermée et malheureusement, j'ai envie de dire, la multiplication des difficultés, ça grandit de plus en plus dans le cadre de la paupérisation de la population et de facto sur les publics les plus précaires que nous gérons, c'est-à-dire les publics en errance, les publics à la rue. Et là, évidemment, on est en train de tirer un peu la sonnette d'alarme parce que on ne pourra pas non plus continuer comme ça pendant des années entendant que les digues sont en train de céder, c'est-à-dire que les moyens qui nous sont alloués et les besoins sur le terrain sont de plus en plus conséquents et donc les acteurs de terrain essaient d'interpeller en tout cas les pouvoirs publics pour montrer que malheureusement on est en train d'assister à un agrandissement des difficultés plurifactorielles. Alors ce sont des publics qui maintenant présentent évidemment ce qu'on appelle en jargon une polyhandicapologie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des problèmes d'être à la rue, mais il y a aussi une conjonction avec des problèmes de santé mentale, avec des problèmes de délitement de la famille, avec aussi les violences institutionnelles et les mesures coercitives qui ont été promulguées depuis quelques années dans notre pays, et les impacts néfastes se matérialisent maintenant vraiment sur le terrain, et nous sommes en basse-œil, le réceptacle évidemment de toutes ces problématiques.
On en reparlera avec le docteur Sibyl, la raison pour laquelle nous l'avons invité. Donc ce problème de population à la santé mentale précaire et qu'on en doit gérer au quotidien dans les rues notamment. Mais je voulais revenir deux secondes sur ce fameux plan Grand Froid. Est-ce que ça vous hérisse le poil, justement, les travailleurs sociaux, d'entendre que chaque hiver, il fait froid et il va falloir un peu faire des dons et puis débloquer du budget et puis aider? Est-ce que ça vous agace ou, vous en avez pris votre parti? Ou est-ce que vous avez quand même envie chaque année de marteler et de dire le reste de l'année, c'est catastrophique aussi? Et d'ailleurs, on mentionne souvent plus de cas de mort dans la rue le reste de l'année plutôt qu'en hiver.
Tout à fait. Donc, ça, c'est vrai que dans les professionnels du secteur et si la laïcité, nous, en ce qui nous concerne, concerne à Picardie Laïque, nous avons décidé de travailler sur le terrain. C'est pour aussi faire remonter des revendications, c'est ne pas être que dans le constat. On voulait avoir ce principe laboratoire d'être au plus près possible de ces personnes pour de façon effective leur apporter une aide et une bientraitance, un travail vraiment efficient pour les accompagner au mieux dans leurs difficultés de tous les jours, mais aussi pour faire remonter des revendications. Ça, c'était vraiment la volonté intrinsèque et de départ qui était de dire, à partir de notre vision locale, de notre ancrage local avec ces deux dispositifs, nous allons pouvoir aussi faire remonter les difficultés. Et les difficultés, comme tu l'évoques, ce n'est pas uniquement pendant le plan grand froid, donc c'est ce qu'on appelle un peu un cache-sexe, hein, mm-hmm. Donc sans vouloir tomber dans la critique facile, mais tout ne s'arrête pas au 31 mars, et donc les difficultés de pérennisation des structures et l'alimentation de ces structures, malheureusement, font défaut. Et là, la prise de conscience qui devrait s'opérer au niveau politique, c'est de voir un peu les impacts, justement, de ce qui se fait de plus en plus sur les mesures coercitives qui, quelque part, ne permettent plus l'émergence ontologique des publics avec lesquels on travaille. Donc, ça les diminue. L'accès à leurs droits culturels et démocratiques, ça menuise. Et ça, c'est vraiment, pour nous, fondamental. C'est-à-dire, les droits citoyens des publics, même les plus précarisés, sont quelque chose de vraiment intrinsèquement important pour le travail laïque qui est fait sur le terrain avec ces publics.
Alors sur le terrain, en abri de jour, de nuit ou même dans la rue, directement avec la population qui vit dans la rue, le docteur Charles Sibyl en connaît un bout. Vous êtes psychiatre, docteur, depuis une grosse année. Vous venez de décrocher votre diplôme. D'ailleurs, vous êtes tout jeune après la médecine.
Ça fait un an que je suis spécialiste.
Voilà, vous avez 35 ans. Et alors, vous êtes psychiatre au sein de l'unité équipe mobile 107. Ça veut dire que vous allez vraiment sur le terrain, au jour le jour, à la rencontre de ces populations, à la santé mentale fragile. Expliquez-nous comment ça se passe.
Mais alors, effectivement, je suis psychiatre au sein de l'équipe mobile 107 précarité, et je suis aussi psychiatre en service de santé mentale.
Bruxelles.
À Bruxelles, à Schaerbeek, oui. Ce qui m'amène effectivement à être au contact de personnes qui sont en grande précarité. En fait, je travaille en étroite collaboration avec le SMES de Bruxelles, qui a une petite équipe composée d'une assistante sociale, d'une psychologue et de moi-même, qui vient en soutien aux travailleurs sociaux, un peu comme Stéphane le décrit, hein, qui sont parfois en grande difficulté par rapport à des problématiques qui mêlent à la fois une souffrance sociale et une souffrance psychique. Et on essaye de voir un petit peu ensemble comment on peut...
Parce que les travailleurs sociaux, évidemment, n'ont pas été formés non plus à ces populations-là.
Alors, ils n'ont pas été formés, mais je suis parfois surpris des compétences qu'ils ont de manière tout à fait intuitive. Alors, c'est pas tout à fait évident, et probablement que le discours ambiant n'aide pas à aller à la rencontre des personnes les plus fragilisées ou les plus en difficulté sur le plan de la santé mentale. Mais je voudrais pas noircir la table
non
plus.
Sûr. C'est justement pour les aider.
Il y a des travailleurs sociaux qui ont vraiment une fibre qui leur permet d'aller à la rencontre de ces personnes de manière très fine. Maintenant, ce qui est important à dire, c'est que c'est pas tout d'avoir la fibre. Il faut aussi en avoir les moyens. Et les moyens, c'est souvent, ça passe par du temps, ça passe par une patience, ça passe par une souplesse peut-être du cadre institutionnel dans lequel ils travaillent, hein, que ce soit...
Mais alors, dites-nous, expliquez-nous concrètement, comme ça on comprendra peut-être un peu mieux. Vous allez dans les rues, vous allez à la rencontre donc des gens sans abri qui sont là et qui passent leur journée à la rue pour leur demander si tout va bien. Comment ça se passe concrètement?
Mais alors, au SMES, je travaille avec cette équipe en appui aux travailleurs, peut-être parfois aussi en appui aux familles. Mais donc, dans le cadre de l'équipe mobile sans cette précarité, il m'arrive effectivement d'aller à la rencontre des gens en première ligne, entre guillemets, et donc d'être en rue, de participer à des maraudes du SAMU social, puisque le projet a plusieurs partenaires, la SBL Source notamment également. Et donc ça, c'est vrai qu'on est plusieurs personnes différentes avec des formations différentes, mais surtout du monde psy. Mm-hmm. Et on va à la rencontre des gens avec des travailleurs de rue ou avec
et alors, vous
la
êtes
première
psychiatre,
ligne sociale.
Est-ce que jadis, il y a 5-10 ans, on voyait des psychiatres en rue aller à la rencontre des gens ou justement, il nécessitait fait loi et il a fallu en amener, je dirais, parce que justement, les populations en avaient de plus en plus besoin?
C'est une bonne question. J'y étais pas il y a 5 ou 10 ans.
Mais est-ce que vous avez beaucoup de collègues plus anciens qui font ça ou non, est-ce que vous êtes très peu nombreux?
Effectivement, quand vous m'avez demandé d'intervenir, je me suis demandé, vous cherchiez un psychiatre actif dans le domaine, on n'est clairement pas très très nombreux. Mm-hmm. Et donc c'est vrai que c'est une démarche qui est particulière. C'est une démarche qui est particulière qui a été un peu initiée par la réforme des soins de santé mentale, mm-hmm. qui est dite article 107, où l'idée c'est d'amener le soutien psychosocial plutôt vers la communauté plutôt que dans les hôpitaux psychiatriques, mm-hmm. comme ça a été le cas
jadis,
mm-hmm. exactement. Et donc cette démarche-là, si vous voulez, n'est pas tout à fait nouvelle. Par contre, l'existence d'une équipe spécifique pour un public sans abri ou en grande précarité, ça c'est tout à fait nouveau et ça fait un an que j'y travaille.
Alors qu'est-ce que ça donne ce
qui est important, c'est important de nuancer parce que les services de santé mentale, qui sont quand même assez nombreux à Bruxelles, avaient dès le départ, dans les années 70, dans leurs attributions, la possibilité de se déplacer, d'aller à la rencontre des gens. Dans certains services de santé mentale, c'est quelque chose qui a été maintenu. Dans d'autres, c'est peut-être un petit peu plus passé à la trappe. Mais de nouveau, la question des moyens est fondamentale puisque se déplacer, ça prend du temps. Mm-hmm. C'est sûr qu'établir un lien avec une personne qui est en grande difficulté et en grande précarité, ça passe par s'asseoir à côté, prendre un café ensemble. Ça passe par des petites choses qui permettent à un lien de se tisser. Mais il faut pouvoir se donner le temps de ce genre de choses, mmh. et c'est pas du tout évident pour un service de santé mentale de faire face à ce type de contraintes.
Voilà, j'entends bien. Mais donc, si on demande à des psychiatres, des psychologues, des assistantes sociales, autres, de descendre dans la rue, c'est que de plus en plus on découvre un problème de santé mentale dans la rue. Ça voudrait dire que beaucoup de psychotiques se retrouvent dans la rue ou la rue crée des psychotiques?
C'est une question délicate. Je pense que la frontière entre la souffrance sociale et la souffrance psychique se brouille quand on est en grande précarité. Disons que c'est difficile d'amener les choses de manière nuancée, mm-hmm. mais je n'aime pas beaucoup qu'on parle de cas psychiatriques. Peut-être que les effets du gel de lit en périphérie se font plus ressentir et que des personnes qui auparavant étaient hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques se retrouvent à la rue.
Expliquons pour le public, les auditeurs, gel de lit, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de places dans les centres psychiatriques, c'est ça? Et donc il y a des gens qui se retrouvent à la rue.
Et on réduit les temps d'hospitalisation.
Stéphane Morsi, où on réduit le temps d'hospitalisation, donc on y va quelques semaines et puis on est rejeté à la rue, entre guillemets, sans aucun suivi.
Mais ça participe aussi à quelque chose de plus global, je pense, pour pas non plus focaliser uniquement sur cette réforme qui pouvait à la base peut-être avoir évidemment des incidences positives, mais on voit évidemment que pour certains types de typologie de public, ce n'est pas toujours le plus facile à gérer à l'extérieur. Je pense que depuis l'état social actif, on a vu une déliquescence justement du rapport de l'aide au rapport de service et d'occupation des individus, surtout les plus précaires. Et donc le principe de contractualisation, de disponibilité des chômeurs, dans des poches post-industrielles telles que les nôtres, à La Louvière, à Charleroi, dans le Borinage, ça a eu des impacts évidemment très très importants. Et donc on parle évidemment maintenant aujourd'hui de transgénérationnalité du quart-mondisme. Et là-dedans, il y a effectivement des publics qui n'ont plus les codes culturels, qui sont vraiment de plus en plus désinsérés, mais au sens symbolique du terme. Et ça présente évidemment des nouveaux troubles de santé mentale qu'on ne voyait pas avant. Et effectivement, je pense que l'hospitalisation n'est pas toujours la réponse la plus idoine possible pour un type de public. Et donc, traiter les gens sur leur milieu de vie avec un aspect beaucoup plus socialisant, beaucoup plus humanisant, c'est de bon augure. Mais malheureusement, là-dedans, les plus abîmés avec lesquels on travaille dans des dispositifs bas seuil comme les nôtres, on voit que finalement, il y a de grosses problématiques autres autre que la santé mentale qui s'opère. Et ce sont des gens qui quelquefois perdent le sens de la temporalité, sont un peu plongés dans leur étrangeté. Et le mélange avec les ce qu'on peut appeler les sans-abri chroniques avec ce public-là n'est pas toujours un bon mariage, parce que bon, il peut y avoir du racket, des systèmes de domination entre eux. Mm-hmm. C'est pas non plus.
C'est pas un mariage ni dans la rue ni dans les abris de jour. Ou de
voilà, je pense que ça présente évidemment pour les travailleurs de terrain, mais ils essayent de faire au mieux pour justement que ce public puisse que ce brassage des différents publics, avec une autre dimension aussi qu'il faut pas éluder, c'est le rajeunissement des publics qu'on peut observer maintenant depuis 2-3 ans. C'est évidemment, ça découle évidemment des récentes mesures gouvernementales, et bon, dans certaines familles, les jeunes de 18 ans qui ne rapportent plus rien entre guillemets à la famille, qui n'ont plus de toute mm-hmm. ressources, sont mis dehors, et donc ce sont des nouveaux publics aussi qu'on retrouve à la rue en errance. Et donc tout ce magma différent, de typologies différentes de publics, se retrouve en bas seuil dans des dispositifs tels que les nôtres, et quelquefois la cohabitation n'est pas si harmonieuse que ça. Mm-hmm. On essaye de faire en sorte que, après bon, c'est ce qu'on expliquait un petit peu tantôt en off, s'ils viennent décompenser chez nous dans les dispositifs, ça veut dire que c'est des dispositifs qui sont repérés par les personnes les plus fragilisées comme des dispositifs sécures, où ils peuvent être entourés.
Quand vous dites décompresser, c'est péter un plomb.
Voilà. C'est la colère inérente.
Mais vaut mieux la faire chez vous que qu'ailleurs, évidemment.
C'est-à-dire que quand ils peuvent sortir du CPS, ils mm-hmm. peuvent sortir d'une autre structure où ils ne se sont pas sentis vraiment ou bien accueillis, ou en tout cas qu'il y a une pression sociale sur leur dos. Alors ils ont déjà des difficultés à pouvoir entrevoir simplement l'avenir de leur existence. Alors si en plus on leur remet sur le dos une espèce de discrimination étatique, une discrimination légitime de l'État qui dit mais si tu veux une aide, tu dois montrer que c'est la méritocratie qui s'impose.
Tu es capable d'avoir une aide.
Voilà, si tu dois la mériter, tu dois montrer que tu te bouges, que tu te rends disponible, on a glissé finalement du CPS, c'est-à-dire aide sociale, à CPS action sociale. Et là, dans la sémantique, tout est vraiment important. Donc,
pour des gens fragilisés mentalement, c'est d'autant plus difficile.
Effectivement. Et donc, de plus en plus, les familles le ressentent. Et dans les familles, il y a comme ça un délitement aussi du rapport social qui pouvait un peu s'opérer, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le jargon le gauche-droite, des gens qui étaient à la rue, mais qui finalement étaient épaulés par un frère, une sœur, quelqu'un de la famille, un ami. Et tout ça, maintenant, dans l'individualisation généralisée paroxysmique, fait que aujourd'hui, débrouille-toi tout seul, parce que moi, de toute façon, j'ai aussi une petite ressource au chômage, et si je te prends, je dois te déclarer, donc ça va poser le problème, parce qu'avec la cohabitation, on diminue la ressource, et c'est multiplier ces difficultés-là. Donc, nous, on essaie de trouver vraiment à chaque fois des réponses possibles avec ces publics, mais force est de constater que la difficulté inhérente à leur situation est finalement concomitante à un complexe plus général qui est basé sur les mesures coercitives.
Du coup, un soutien du docteur Sibylle directement dans la rue, j'imagine, c'est tout à fait favorable. Et docteur, est-ce que c'est aisé? Est-ce qu'on arrive à maintenir le lien dans la rue? Est-ce qu'on retrouve les personnes d'une semaine à l'autre? Quelles sont les fréquences? Est-ce qu'il y a moyen de les aider à se médicaliser, ou est-ce que c'est d'autant plus compliqué? Vous faites face à quel problème, en fait?
Alors, les gens qu'on rencontre sont des gens pour lesquels on essaye de mettre en place des choses pérennes et qui vont permettre aux personnes de sortir de cette souffrance psychique et de cette souffrance sociale, puisqu'elles sont relativement indissociables pour les gens qu'on rencontre. Alors ça peut passer par des moyens très différents. Il y a des personnes pour lesquelles c'est reprendre contact avec la famille, il y a des personnes pour lesquelles c'est retrouver une inscription d'une manière ou d'une autre dans la société. Il y a des personnes pour lesquelles le parcours est un peu plus classique, c'est-à-dire une maison d'accueil et puis une réinsertion très progressive dans un logement. Il y a des personnes pour lesquelles on fait appel au système de Housing First, par exemple, qui permet de reloger des personnes qui sont à la fois en difficulté de santé mentale et qui ont une consommation active de toxiques.
De qui sont relogés mais suivis.
Voilà, avec un suivi important. Et donc, on se décale un petit peu du système médical classique proposé par la psychiatrie d'antan.
Vous ne pas avec une petite mallette
Je n'ai pas de petite mallette.
De quoi prendre l'attention.
J'ai un sac à dos et un vélo. Et ça convient très bien.
Mais est-ce que vous voyez des cas chaque semaine que vous recroisez ou est-ce que vous les sortez assez rapidement de la rue ?
Non, notre but n'est pas toujours de sortir les gens de la rue. Mm-hmm. Parfois, il peut y avoir un sens à une errance. Et donc, attention, il faut être prudent quand on dit ça, évidemment. Mais on n'a pas de but systématique ou de procédure. On travaille très fort avec le lien. Parce que c'est des gens qui sont en règle générale de plus en plus isolés, qui s'isolent eux-mêmes, qui finissent par ne plus être demandeurs de quoi que ce soit. Et du coup, c'est intéressant qu'il y ait une équipe qui aille à la rencontre de ces personnes, parce que spontanément, elles ne passeront jamais la porte d'un service de santé mentale, certainement, mais même des services de première ligne sociale. C'est pas toujours évident d'amener les gens vers ces structures-là, sans établir au préalable un lien qui remet un petit peu d'humanité dans le quotidien de ces personnes. C'est un peu ça nos outils de travail, qui se décalent un petit peu de la manière classique d'exercer la médecine, bien que je trouve qu'elle pourrait s'en inspirer parfois un peu plus.
Alors, centre d'abri, centre de jour, centre de nuit, psychiatrie en rue, on reparle de tout ça dans quelques minutes. On fait une petite pause avec un morceau choisi par Stéphane Mancy, HK les saltimbanques, sans haine, sans armes et sans violence. On est complètement dans la thématique là, on se rejoint tout de suite.
Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. La fronde commence sur cette place, ces casques lourds qui nous font face, nous les défions, folie ou inconscience, sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée, notre obsolescence est programmée, nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. C'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens, depuis que nos rêves sont indexés sur le prix de l'essence. Sans aucune condition de ressources, ils voudraient que l'on parte au pas de course, acheter des biens de grande consommation au premier tir de sommation, que nous leur portions cette marchandise, objet de toute leur convoitise, leur précieux, leur cœur de cible, du temps de cerveau disponible. Oh, qu'ils chérissent tant ce cœur de cible, ce temps de cerveau disponible. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance, c'est une évidence, nos vies n'ont plus aucun sens.
Nous sommes ensemble avec Stéphane Mancy, coordinateur du relais de la Louvière, et le docteur Charlie Sibyl, psychiatre de rue au sein de l'équipe mobile 107. Stéphane Mancy, qu'est-ce qu'il faudrait demain pour que cette méritocratie puisse être tout de même quand même aplanie et que ce ne soit plus la norme ? Est-ce que laïcité et solidarité ont un lien intrinsèque ? Est-ce que le travail à Picardie laïque, c'est la solidarité ?
Oui, tout à fait. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on envisage évidemment l'assistance distance morale depuis 2008, c'est-à-dire que c'est matérialiser concrètement sur le terrain des principes fondateurs d'esprit critique, de développement de dignité humaine, de droit démocratique et droit culturel justement des personnes les plus précaires. Et ce qu'on observe, et enfin moi je donne souvent cet exemple là, c'est que finalement le SDF il a aussi un rôle symbolique dans la société, dans la société dans laquelle on est,
il tire l'alarme. Qu'est-ce qu'il aurait comme rôle symbolique?
Sa présence dans la rue fait que si on veut, ça renvoie aux citoyens lambda de si tu veux ne pas tomber comme lui dans cette situation là suis la marche inexorable de la rentabilité et de l'effectibilité de ton aliénation au niveau du travail, au niveau de ta condition d'être humain. Et donc c'est une vision un peu politique et philosophique, mais quelque part ça veut dire que le SDF lui-même sait qu'il a un rôle dans cette société, mais qu'il est en même temps discriminé et mis au banc.
Il
a le mauvais rôle, et donc c'est finalement une espèce d'épouvantail symbolique. Concrètement, ce n'est pas qu'un épouvantail symbolique, c'est aussi quelqu'un, un être humain qui souffre, un être humain qui a besoin d'attention, de tendresse, d'écoute, justement pour valoriser tout son monde intérieur, parce que c'est pas quelqu'un qui va ne parler que de ses problèmes, il a aussi une vie relationnelle, d'autres paramètres vraiment importants. Et donc avec nos travailleurs, nous on tient vraiment à cette dimension là c'est-à-dire que ce qui n'est jamais souvent mis en exergue peut-être dans un traitement administratif et social où on te demande tout le temps d'expliquer ta situation, de dire d'où tu viens, pourquoi ça va pas, pourquoi t'as été en logement, pourquoi t'as quitté le logement, pourquoi ça a capoté. Donc toujours devoir se raconter le fameux récit de l'anamnèse classique. Nous on sort de ça, on travaille vraiment sur être avec. Donc pour nous l'assistance morale c'est ça, c'est être avec, c'est être dans la bientraitance, c'est être dans l'accompagnement mais vraiment humain. Et nos travailleurs sont vraiment là au départ pour être dans l'intimité de la personne, c'est-à-dire écouter vraiment. Et quelquefois c'est soigner, mais soigner à partir de la nourriture, à partir d'un axe symbolique. J'ai une collègue par exemple qui est en train de faire un travail de photographie avec ces personnes, et donc c'est une réappropriation de leur monde à eux aussi. Et c'est pas parce qu'à un moment donné on dégringole qu'on n'a plus des choses à dire sur le monde qui nous entoure. Et si on peut donner une spécificité, j'en termine là-dessus, de la laïcité, pourquoi on fait ce travail-là, je pense que c'est vraiment une volonté d'être aiguillon par rapport aux structures habituelles, de montrer qu'il y a moyen de faire autrement. Et donc, sans tomber peut-être dans le grand espoir d'un changement de paradigme complet, parce que ça
impose... Une autre conception du monde.
Une autre approche, en tout cas, beaucoup plus intégrée, avec du culturel, avec une prise de conscience sociétale de c'est pas parce que vous êtes dans la classe moyenne qu'un jour, cette dégringolade, vous n'allez pas la subir. Et donc, il ne s'agit pas d'être dans la charité, et surtout dans cette période-ci, à la veille des périodes de fête de Noël, je vais donner un petit peu parce que je me sens un peu émotionnellement touché par la cause. Non, c'est avoir une vision beaucoup plus spectrale, beaucoup plus globale sur pourquoi il y a des pauvres.
Ça, c'est l'État qui doit faire son travail. Est-ce que l'État fait son travail? On en terminera là-dessus, puis on laissera le mot de la fin au docteur Sibylle, son année d'expérience dans la rue. Mais est-ce que l'État fait son travail, Stéphane Mancy?
Il fait une partie de son travail, mais il fait aussi une partie des dégâts. Et donc créer des structures, alimenter des structures pas toujours de façon adéquate, parce que nous on est vraiment à la limite de nos moyens structurels et financiers, tout en créant j'ai envie de dire des politiques qui mettent des gens dans des situations de plus en plus de paupérisation, c'est un non-sens. Je veux dire, à un moment donné, où on travaille dans un sens pour essayer d'intégrer le plus possible les personnes et de mettre le moins de personnes en difficulté, alors c'est des réflexions qu'il faut avoir sur le partage du temps de travail, sur la réadaptation aujourd'hui des structures d'accueil, sur pourquoi à un moment donné les gens perdent des codes culturels, ou pourquoi il y a une fragilisation aussi dans le monde de l'enseignement. Enfin, ça doit être une réflexion beaucoup plus globale, des états généraux justement de la déliquescence aujourd'hui d'une société qui met des, face à face des gagnants et des perdants du système néolibéral.
Docteur Sibylle, pour terminer ce débat, après une année d'exercice de la psychiatrie sur le terrain, qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine pour améliorer encore ce travail-là? Énorme question.
Oui, c'est une bonne question et j'avais un peu envie de réagir sur ce que Stéphane vient de dire, hein, parce que ça me paraît très intéressant et je pense que à Bruxelles, une des spécificités de notre travail, c'est aussi de rencontrer beaucoup de gens qui ne sont plus en règle au niveau des papiers, qui n'ont plus de droits sociaux. Et alors ça, même avec la meilleure volonté du monde et avec les meilleures équipes du monde, on intervient, on crée quelque chose qui permet une ouverture pour des gens qui étaient en très grande précarité, en très grande difficulté. Et puis on se rend compte qu'en aval, ça ne suit pas, que les gens n'ont pas de droits ni de papiers et que du coup la problématique se représente à l'identique quelques mois plus tard, voire même quelques semaines dans les cas les plus dramatiques. Et donc il y a un côté effectivement épuisant à se dire que à la fois l'État peut financer des ASBL et des structures aussi porteuses que celles dans lesquelles je travaille, et à la fois on peut faire fi tout à fait d'une certaine réalité pour ces personnes-là. C'est interpellant, mm-hmm. C'est le moins qu'on puisse dire.
Encore à réfléchir et à retravailler pendant les mois qui viennent. Merci à vous deux d'avoir été là. C'est une petite goutte dans l'océan, mais il était bon de rappeler que le plan Grand Froid, ce n'est pas que maintenant. Toute l'année, il y a des gens qui ont besoin de vous, de nous, et c'était bon de le redire aujourd'hui. Merci de votre présence, docteur Sibylle, Stéphane Mancy.
Merci à vous.
On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci et bonne soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.